Fait que le secteur des techs là, dans cette saison-là de résultats, moi, personnellement, ce qui m'a surpris le plus, encore une fois, c'était Meta. Ils reviennent avec des marges d'opération de 40 % comme il y avait dans une belle époque. C'est un peu comme on discutait l'autre fois, c'est que c'est vraiment une période où les actionnaires sont récompensés parce que ces entreprises-là, pour la majorité, si tu regardes, moi j'ai à l'esprit Meta, Microsoft, on est aussi Amazon, ils ont une croissance des ventes, des fois dans les deux chiffres, mais la gestion des coûts qui était absente pendant des années, ben là maintenant les entreprises sont vraiment prudentes dans leur gestion des coûts. On a vu des mises à pied qui avaient été annoncées au début de l'année. Et là, ce qu'on voit, ben quand ton chiffre d'affaires augmente, tes dépenses baissent. Ben t'as un levier opérationnel phénoménal.
Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance et comme on fait à chaque mois, à chaque trimestre également, on fait le tour du suivi au niveau économique en compagnie de Simon Plante qui va venir nous parler un petit peu de ce qui s'est déroulé parce qu'on était dans une saison des résultats avec le marché public. Simon, comment ça va aujourd'hui?
Très bien, toi, Antoine.
Ça va très bien, merci de le demander. Donc, Simon, dans les derniers épisodes qu'on avait fait ensemble, tu nous mentionnais que les organisations, spécifiquement dans le domaine technologique, disaient aux investisseurs qu'ils allaient avoir peut-être des résultats moins élevés que prévu, donc on était en train de préparer le terrain pour finalement arriver à la fin Q3 et les résultats sont sortis. Et comme par magie, toutes ces organisations-là ont quasiment de la croissance, qu'on dit en anglais à double digit. Peut-être qu'on pourrait faire un petit tour avec les grosses entreprises technologiques. Par la suite, on pourra en discuter ensemble.
On débute avec le secteur des techs là, dans cette saison-là de résultats. Moi, personnellement, ce qui m'a surpris le plus, encore une fois, c'était Meta. Ils reviennent avec des marges d'opération de 40 % comme il y avait dans une belle époque. C'est un peu comme on discutait l'autre fois, c'est que c'est vraiment une période où les actionnaires sont récompensés parce que ces entreprises-là, pour la majorité, si tu regardes, moi j'ai à l'esprit Meta, Microsoft, on est aussi Amazon. Ils ont une croissance des ventes, des fois dans les deux chiffres, mais la gestion des coûts qui était absente pendant des années, ben là maintenant les entreprises sont vraiment prudentes dans leur gestion des coûts. On a vu des mises à pied qui avaient été annoncées au début de l'année. Et là, ce qu'on voit, ben quand ton chiffre d'affaires augmente, tes dépenses baissent, ben t'as un levier opérationnel phénoménal.
Peut-être pour donner un petit peu de contexte aux gens qui nous écoutent, je vais essayer de situer les gens avec les chiffres parce qu'effectivement, comme Simon le dit, ce sont des chiffres assez impressionnants. Donc, on va essayer de donner un peu de contexte. Au trimestre qui s'était terminé le 30 septembre 2022, donc il y a un an de ça, Meta générait 27 milliards de revenus, avait des coûts opérationnels qui se chiffraient à 22 milliards et au final, le bénéfice net était à 4,3 milliards. C'est surtout à ce moment-là que l'action avait pris quand même un bon coup. Et là, pour le trimestre qui vient tout juste de se terminer, le troisième trimestre de l'année 2023, c'est 34 milliards de revenus. Donc, on est en augmentation de 23 % comparativement à l'année dernière. Et les coûts sont moins élevés. On est à 20 milliards de coûts comparativement à 22 l'année dernière pour finalement un bénéfice net qui va se chiffrer aux alentours de 11,5 milliards. C'est une croissance de 164 % sur l'année dernière. Meta est revenu en force. Je lisais également, parce que tu as compris, c'est un stock qui m'intéresse. Zuckerberg mentionnait, les gens parlent un peu de Threads. On voit des gens aux États-Unis qu'on appelle ça un peu le ghost town parce que personne sur la plateforme. Mais finalement, si tu analyses en profondeur les chiffres, ils ont un nombre d'usagers quotidiens environ à 33 millions de personnes. 33 millions de personnes qui utilisent l'application quotidiennement. Donc, c'est pas rien. Bien entendu, il est allé chercher 100 millions de personnes qui avaient créé un compte au départ. On s'attendait à ce que les gens ne restent pas tous sur la plateforme. Mais il y en a quand même 33 millions qui restent. Ils restent convaincus que ça peut être une plateforme intéressante pour le futur. Et je mettrai également des liens dans les notes de l'épisode. Leurs différentes plateformes, les Facebook, les Instagram de ce monde en termes de consommation, et je parle pas au volet économique ici, mais en termes de consommation que les gens font, ils sont en forte croissance comparativement à TikTok. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de Zuckerberg. Donc, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un ennemi à l'horizon, il trouve tout le temps une manière de s'en sortir, de contre-attaquer, plus souvent qu'autrement, de copier. Mais ils s'en sortent et ils offrent des résultats assez impressionnants. L'indice boursier, Simon, de Meta, cette année, est en feu aussi. Là, si je regarde ça, une capitalisation boursière à 862 milliards. Il y a une croissance. Le titre cette année a fait 169 %. Donc, bref, c'est bien pour ceux qui l'ont acheté en début d'année. Là.
Ben c'est ça. C'est que l'année dernière, il y avait une tempête parfaite parce que un, on s'attendait qu'avec les hausses de taux d'intérêt, le consommateur soit beaucoup plus étouffé. Au niveau du budget, ça allait ralentir les ventes publicitaires. Combiné avec un projet dans le Meta qui est dans le métavers qui était difficile à comprendre pour la communauté d'investisseurs. Quand on regardait l'envergure, on parlait d'enveloppe totale de dépenses d'autour de 50 milliards. C'est difficile pour l'investisseur de le rassurer qu'il va avoir un profit tellement significatif que ça va être rentable. Aujourd'hui, on regarde la situation, puis comme tu as mentionné, le consommateur est encore au rendez-vous. Les ventes sont en progression. Donc, je pense que pour ceux qui s'attendaient, jusqu'à présent, on attend toujours la récession. Elle semble tarder, mais du point de vue, en tout cas, de la consommation, ça va quand même bien. On a des utilisateurs nord-américains qui sont encore participatifs, puis même là, l'utilisation, elle augmente dans un marché qu'on pensait mature. Combiné avec des projets d'avenir, le métavers reste d'actualité. On voit certaines lueurs à l'horizon que ça va être un produit qui va être éventuellement intéressant. Et maintenant, de quoi on parle cette année, c'est l'intelligence artificielle, puis le projet de Llama de Meta. Je pense que c'est un projet qui va être vraiment porteur. Donc, on vient dans un environnement où les investisseurs ont peur de rater le bateau dans les grandes compagnies technologiques. Puis c'est vraiment ces grandes compagnies-là qui ont amené la performance du S&P 500 au courant de l'année. Là.
C'est des magnifiques 7, là. C'est comme ça qu'on les appelle. D'ailleurs, peut-être si on fait un tour avec les autres tech, Alphabet, Microsoft, Amazon, lesquelles parmi celles-ci ont capté ton attention?
Amazon, je te dirais, ce qui m'a attiré le plus attention, c'est encore la même chose, le levier opérationnel là, de mémoire. Je pense que c'est 11 milliards au dernier trimestre qui a été dégagé de rentabilité. Puis même leur division AWS de cloud, je crois que c'est une croissance des ventes de 12%. Ça a vraiment attiré mon attention. Même chose du côté de Microsoft, le marché a été agréablement surpris par leurs résultats, vraiment les outils qui sont utilisés. Puis on voit une bribe là, des outils comme Copilot qui intègre l'intelligence artificielle générative. Je pense que le marché va encore être surpris là, dans d'ici 24 mois à quel point que ces outils-là peuvent nous amener à faire des gains de productivité. La petite déception ce trimestre-ci, je dirais, c'est Google, la division de Google Cloud. Puis plus que Alphabet tarde à sortir un produit d'intelligence artificielle générative, plus qu'il se met de la pression parce que là, on voit des avancées auprès des autres entreprises. Puis pour vraiment rassurer la communauté des investisseurs, pour assurer une pérennité du modèle d'affaires qui va aller au-delà de l'engin de recherche, il va falloir qu'ils sortent un produit vraiment convaincant parce que faut pas oublier qu'Alphabet, ils ont fait beaucoup de paris dans d'autres secteurs d'activité. Puis à date, on n'a pas d'autres vecteurs de croissance qui pourraient substituer à ce que l'engin de recherche peut apporter pour le moment. Là.
Donc peut-être pour donner un peu de contexte, effectivement, Amazon a eu un trimestre assez exceptionnel. Donc des chiffres pour les gens qui nous écoutent, c'est 143 milliards de revenus pour le trimestre qui vient de se terminer. On parle de 9,9 milliards de bénéfices nets. Ils avaient fait 3 milliards l'année dernière, ouais. Au même moment. Ils ont fait fois 3 sur leurs bénéfices nets. C'est assez impressionnant là, quand on regarde tout ça.
Ça l'amène une nouvelle gamme d'investisseurs. Des fois, les gens voient le magnifique 7, mais c'est rendu un blue chip. Donc, l'investisseur qui ne voulait pas investir dans les entreprises qui avaient des croissances à n'importe quel prix, là, maintenant, voit que ces entreprises-là peuvent être rentables. Donc, c'est ce qui fait que ces titres-là, ils ont encore la cote.
Et on voit également les revenus publicitaires avec Amazon. J'en parlais dans un précédent podcast. Une entreprise qui est tellement créée des barrières à l'entrée qui sont élevées. Ils ont des tentacules sur tout. 12,1 milliards de revenus publicitaires qu'ils ont fait sur le dernier trimestre, on s'entend. Ça, c'est de la marge bénéficiaire qui est très, très élevée. Les revenus dans le cloud, 23,1 milliards qui ont été capables de faire. Donc, encore une fois, les deux lignes sont en croissance. Et c'est intéressant parce que pour Alphabet même, toi, tu parles que peut-être qu'il y a eu une déception, mais quand même, ils ont fait plus fort que les attentes. Ils ont fait 76 milliards de revenus. Le marché s'attendait à peu près à 75 milliards de revenus. Et les revenus ont fait une croissance de 11% qui, si tu regardes bien, depuis 18 mois, c'est leur trimestre en plus forte croissance. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre de plus, Simon, d'Alphabet? Parce que même les bénéfices nets sont très élevés. On était quasiment 20 milliards de bénéfices nets comparativement à 13,9 l'année dernière. Qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre de plus, selon toi?
Ben, c'est une bonne question. Moi, ma réponse, c'est que c'est un marché d'anticipation. Parce que on a eu jusqu'à présent une saison des résultats particuliers. On voit vraiment des titres réagir de manière très volatile suite aux annonces. Puis je dirais l'accent, c'est pas nécessairement sur les résultats passés. Oui, ça peut agréablement surprendre les investisseurs, mais là où le focus est mis, c'est sur les projections. Donc, c'est pas toutes les sociétés inscrites qui vont donner des projections. Certaines n'en feront aucunement, d'autres ne vont en faire sur les 3 prochains mois, d'autres pour la prochaine année. Puis, on est encore dans un environnement où l'investisseur craint que la hausse de taux d'intérêt va avoir un impact. Et là, on porte attention. Puis les équipes de direction, de leur côté, eux, ils n'ont pas nécessairement à gagner, de mettre la barre plus élevée. Donc, on a eu des périodes où les équipes de direction disent encore que la prudence est de mise, revisent à la baisse dans un bon nombre de cas, comme ils avaient fait au dernier trimestre, les attentes. Ce qui fait que ça, la nervosité de l'investisseur est encore là. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut voir des résultats puis surprendre la réaction du marché. Mais moi, je dirais, qu'est-ce que la projection que l'entreprise a annoncée? Puis ça va peut-être expliquer une plus grande partie de la, du mouvement du prix de l'action.
Et bon, je t'amène ça un petit peu plus proche de chez nous. Donc, il y a certains stocks au Canada également qui, bon, comme toute entreprise publique, devaient faire leurs états financiers, leur bilan aux actionnaires. Donc, Coveo. Coveo, on en a parlé plusieurs fois sur le podcast. C'est une organisation, je pense, que tu suis beaucoup depuis un bon bout de temps déjà. Croissance de 25 % sur ses revenus, fait 26,4 millions de dollars au dernier trimestre. Clairement, un titre qui continue à croître, mais qui, comme on l'avait déjà mentionné, ce n'est pas une organisation qui a encore atteint la profitabilité. Tandis quoi, qu'est-ce que tu vois un petit peu avec Coveo? Parce qu'ils sont dans un marché, soyons honnêtes, Simon, qui est en effervescence.
Oui, deux choses qui ont attiré mon attention positivement à propos de Coveo, c'est vraiment de voir une croissance des ventes de 25 % dans un contexte où les dirigeants d'entreprise doivent vraiment être prudents au niveau de la gestion des coûts. Donc, quand on se permet de dépenser, d'investir massivement, c'est sûr que la croissance des ventes doit suivre, mais voir une croissance dans un environnement quand même de sobriété, entre guillemets, pour un contexte de société de technologie, c'était vraiment positif. L'autre point, on est encore très tôt, mais c'est voir comment que l'entreprise se métamorphose puis s'ajuste avec l'intelligence artificielle générative. Mais là, elle lance vraiment avec certains clients des produits. Donc, il y avait une phase là, de test au niveau de leur nouveau produit qui inclut l'intelligence générative. Je pense qu'il y a un produit qui est vraiment intéressant parce que ça peut permettre aux entreprises de conserver les données à l'intérieur d'un circuit fermé puis de garder ces données-là privées plutôt que de le mettre sur un infonuage où l'information pourrait être publique. Puis je pense que l'entreprise, ben, on va laisser le temps, là, mais je pense qu'elle est en bonne posture pour gagner sa juste part de marché de ce côté-là. Donc, honnêtement, à Coveo, j'étais vraiment content. Puis en fait, les compagnies technologiques canadiennes, ça a été quand même un bon trimestre pour celle-ci en général.
On va en parler dans quelques minutes. Mais effectivement, à Coveo, dans un environnement où est-ce que, comme tu le dis, beaucoup d'organisations, la première chose qu'on va regarder souvent, c'est les logiciels auxquels on paye en tant qu'organisation dans le domaine B2B, parce que Coveo, comparativement aux autres organisations qu'on a mentionnées un petit peu par avant, ne s'adresse pas aux consommateurs en général, c'est vraiment des entreprises qui vendent à des entreprises. Et oui, le logiciel en général est souvent un des premiers coûts qu'on va couper et voir une croissance de 25 % à la grosseur qu'ils sont rendus, c'est assez impressionnant. Tu as parlé des organisations canadiennes qui ont bien fait, Shopify, peut-être tu pourras en parler un peu, qu'on a été capable de voir. Croissance 25 % aussi, là.
Oui, exactement. Phénoménal du chiffre d'affaires. Le consommateur, il est quand même présent parce qu'on voit que ça se reflète à travers les résultats de Shopify. Combiné aussi avec, je pense, une clarté. C'est quoi l'entreprise est sur son X, dans quel domaine? Moins en moins, on s'attaque au marché, exemple, de la livraison, de la logistique qui était vraiment coûteuse pour l'entreprise. Puis ça prend un talent d'exécution démesuré. Je pense pas que c'est toutes les entreprises qui peuvent se permettre de chapeauter ce genre de mandat-là. Puis revenir à ton commentaire précédent, là, tu sais, tu mentionnais que c'est surprenant de voir, parce que c'est vrai qu'au Canada, les compagnies de tech, souvent, c'est du business to business au lieu d'être direct au consommateur. Puis souvent, c'est des compagnies qui vont vivre l'impact d'un ralentissement économique. Mais moi, je dirais la différence qu'on a jusqu'à présent sur tout ce qui touche l'intelligence artificielle générative, c'est que c'est des modèles de vente qui se justifient. Là, je vais m'expliquer, mais c'est que aujourd'hui, une entreprise qui veut instaurer l'intelligence artificielle générative peut aider l'entreprise qui songe à investir dans sa plateforme de voir à quel point elle peut réaliser des gains de productivité, mais de manière tangible. Donc, lorsque tu es le chef des finances ou le chef des produits technologiques, tu es capable de présenter à ton conseil d'administration qu'un investissement significatif a quand même sa place parce qu'on peut, de manière assez précise, anticiper les gains de productivité puis les économies d'échelle qu'on peut faire, ben ça devient un produit qui est quand même intéressant puis qui est plus à l'abri de périodes de contraction économique. Puis c'est un peu ça qu'on voit de ce côté-ci, de la part de Coveo ou d'autres entreprises, surtout qui touchent maintenant à l'intelligence artificielle générative, qui c'est pas juste un buzzword, c'est encore en exploration, mais je dirais dans ce qui touche le logiciel, le développeur, Il y a déjà des applications qui sont en ligne en ce moment qui permettent vraiment à ces entreprises-là de faire des gains de productivité significatifs.
Ben oui, puis on le voit, je sais pas si tu as vu un petit peu la semaine dernière, donc on enregistre le podcast le 14 novembre 2023. OpenAI ont fait leur Dev Day, ils ont démontré un petit peu ce qui s'en vient pour la suite, et tu parlais de développeurs, tu sens vraiment qu'ils sont en train de créer une plateforme pour les développeurs, un écosystème autour de ça. Il y a Elon Musk, la semaine dernière également, qui a lancé son intelligence artificielle avec Twitter, Grok, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est son ChatGPT version Twitter et qui a un ton sarcastique et humoristique, c'est la grosse différence. Donc, si vous êtes des adeptes de X, la plateforme qui anciennement se nommait Twitter, je vous invite à aller tester. Donc, peut-être on revient à Shopify. Shopify qui avait connu une croissance extraordinaire pendant le COVID pour des raisons évidente, une entreprise qui à un certain moment valait 100 milliards, avait une capitalisation boursière de 100 milliards, ça leur descendu pour des raisons évidentes par la suite, mais tranquillement monte, revient à des endroits, on l'a connu, fait une croissance cette année de 84%. L'entreprise vaut 84 milliards, comme je l'ai mentionné. Donc, vraiment une belle croissance. Et je pense que, Simon, on en parlait un petit peu avant le début du podcast, ça revient à une concentration, un focus sur ce qu'ils savent faire de mieux. Et la preuve, c'est la vente qu'ils ont fait cet été de toute leur partie Shopify Logistics, la vente qu'ils ont faite à Flexport. Et là, je pense qu'ils reviennent vraiment à ce qu'ils savent faire de mieux, là.
Exactement, exactement. C'est sûr que durant la période COVID, là, il y avait des multiples dérisoires dans un monde où les taux d'intérêt étaient hyper bas. Là, on vit dans un monde où les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Il y a une certaine orthodoxie financière qui s'installe. Fait que je m'attends pas à revoir des multiples aussi élevés qu'on a eu dans le passé. Mais je pense que Shopify s'est redressé, puis est définitivement sur une bonne trajectoire. Là. Puis son modèle d'affaires est encore pertinent. Là.
Définitivement. Lightspeed, un autre stock qu'on avait parlé brièvement sur le podcast. On est beaucoup dans le monde tech, donc pourquoi pas faire un tour. Puis peut-être dans un prochain podcast, on fera le tour de d'autres types que des techs. Mais tant qu'à être là, parlons un petit peu de Lightspeed.
Exact. Lightspeed aussi a publié ses résultats. Ça aussi, ça a été bien accueilli par les actionnaires. Je pense qu'ils sont en avance sur les projections qu'a fait. L'entreprise dirige vraiment vers la rentabilité. Mais aussi, je pense que l'entreprise communique bien maintenant son modèle d'affaires. Jadis, elle avait perdu beaucoup de clients. Puis on se posait des questions à ce niveau-là. Mais c'était premièrement un héritage de transactions antérieure, des plus petits clients qui cadraient moins avec son modèle d'affaires. Donc là, l'entreprise a vraiment clarifié c'est qui son persona qu'elle vise en temps dans ses divers secteurs d'activité. Puis sur ces métriques-là, on voit vraiment qu'il y a une croissance organique qui est là. Depuis, l'entreprise veut vraiment veut être verticalement intégrée dans le sens qu'elle veut vraiment intégrer le paiement, entre autres, sur sa plateforme. Puis à date, les gens s'inquiétaient de la rétention. Maintenant que le consommateur, leurs clients doivent intégrer sine qua non leur système de paiement, ce qui va vraiment aider la rentabilité de l'entreprise. Puis la réaction, je pense que leurs consommateurs, ça montre à quel point le modèle d'affaires est robuste. Bien, ils restent fidèles. Donc, dans un contexte qu'il faut quand même réaliser, c'est beaucoup de leurs clients touche le secteur de l'hôtellerie, touche le secteur de la vente au détail. C'est un secteur qui peut être à court terme ou à moyen terme impacté par la hausse de taux d'intérêt. Par contre, son outil, cette plateforme-là mondiale, bien, je pense que vraiment, ça a été bien reçu de la part des investisseurs.
Une belle équipe qu'on a là-bas. Et bon, Simon, tu me parlais qu'il y a certains secteurs, certaines organisations qui captent ton attention un petit peu plus que d'autres en ce moment. Je serais curieux de t'entendre si tu veux nous en dire un peu plus.
Moi, ce que je te dirais, c'est que tout le monde le sait, là, tantôt tu parlais des Magnifiques 7, ils ont vraiment progressé. C'est des entreprises, je pense, qui ont des beaux modèles d'affaires intéressants, mais je pense qu'il faut de plus en plus s'intéresser au S&P 493, là, les 493. Faudrait commencer à séparer ces entreprises-là. Mais j'aime bien le S&P 493 parce que vraiment l'écart entre les moyennes capitalisations puis les larges n'a jamais été aussi grand depuis plusieurs années. Puis ça, on touche les technologies parce que je pense beaucoup de tes auditeurs sont intéressés à ce sujet-là. Bien là, business to business, on en parlait tantôt, mais dans l'univers du monde. Puis je recommande pas toutes ces compagnies-là, mais plus en plus, l'investisseur doit se familiariser avec des sociétés comme, la semaine dernière, on a eu des beaux résultats de la part de Datadog, MongoDB s'en vient, ServiceNow ont publié leurs chiffres. L'analyse de données, là, c'est un marché d'à peu près 100 milliards de dollars par année. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle générative, je pense que ça va être une plateforme, ça va être un secteur d'activité qui va vraiment avoir une croissance. Puis comme je mentionnais, c'est quelque chose qui peut se vendre auprès des entreprises parce que il y a une raison, puis on est à la première manche de ce domaine-là. Fait que moi, je te dirais, les compagnies tech canadiennes, ils ont un escompte par rapport à leurs pairs américains mais aussi même aux États-Unis, les moyens de capitalisation, puis si on commence à regarder l'intelligence artificielle, comme je dis, faut pas toucher à tout, là. Certaines sociétés sont démesurées, mais ça mérite d'être étudié. C'est un des secteurs qui attire mon attention. L'autre aussi, c'est nous, dans notre portefeuille, ce qui touche l'industriel a vraiment bien performé. Puis je pense encore, là, les investisseurs n'ont encore pas réalisé l'impact de tout ce qui se passe dans le monde. On a vu durant la période COVID qu'il y avait des enjeux de chaîne d'approvisionnement. Il y a des tensions entre les États-Unis et la Chine. Donc, le phénomène de ramener de la fabrication, c'est significatif. Puis des fois, on sous-estime à quel point que ramener la fabrication par ricochet au deuxième ou au troisième degré, ça peut stimuler l'économie, ça peut créer des défis. Mais il y a des manières vraiment de se positionner de ce côté-là de manière avantageuse.
Quel type de catégorie spécifique ou même d'entreprise qui capte ton attention, qui est dans cette dynamique-là?
Au niveau de ramener de la fabrication en Amérique du Nord, on a un enjeu de main-d'œuvre. Donc, on a juste à penser à l'automatisation. L'automatisation, c'est vraiment un secteur qui va se développer encore davantage. Donc, c'est un secteur qui attire notre attention. Ça peut être aussi certaines sociétés qui vont fabriquer des matériaux, des produits chimiques, entre autres, qui vont bien s'harmoniser avec une augmentation de la production. Des fois, on peut toucher des sujets, des thèmes par ricochet. Tu sais, je donne un exemple qui me vient à l'esprit, mais le secteur ferroviaire. On est dans un monde où on ramène la fabrication, on a besoin de plus de transport. Mais en même temps, on a des objectifs pour décarboner l'économie. Transport ferroviaire, d'après moi, ça va être un secteur qui est quand même intéressant. Donc ça, je donne un exemple à la volée, mais quand on mûre un peu ce qui se passe, je dirais les grandes tendances qu'on voit dans des secteurs d'activité boursier qui n'ont pas nécessairement si progressé, mais c'est des méga tendances qui vont rester. On vit au Canada, on va vivre l'immigration. 1,3 million de personnes ont immigré au Canada l'année dernière. C'est la population de Terre-Neuve en un an. On attend un autre milliard. On a des enjeux de logement, de mise en chantier. On veut décarboner l'économie. Ce qui se passe en Ukraine, 13 % des grains dans le monde sont bloqués dans la mer Noire. Donc, la productivité agricole, c'est une thématique qui est très présente. On veut décarboner, on veut ramener de la fabrication en Amérique du Nord. Donc, il y a plusieurs axes, des secteurs d'activité que tu dis, peu importe l'environnement où on est avec la hausse du taux d'intérêt, puis si le consommateur va être au rendez-vous ou pas pour, exemple, les résultats au prochain trimestre qui vont inclure le temps des fêtes. Ça, c'est des thématiques à très court terme, mais ces méga tendances-là, ça va être des tendances qui vont être présentes pour les 5-10 prochaines années. Puis si on regarde les prix des actions en bourse, ils n'ont pas vraiment suivi la performance qu'on peut voir dans les grandes compagnies technologiques, loin de là, puis encore des escomptes, à mon avis, dans ce secteur-là.
Intéressant. Très intéressant même. Et bon, peut-être dernier point que j'aimerais discuter un peu avec toi. On parle beaucoup du marché public. Toi, tu parles, tu vois beaucoup de choses. C'est quoi la dynamique que tu sens peut-être globalement avec deux joueurs? Si tu parles avec des investisseurs, est-ce qu'on est prêt à réinvestir de l'argent dans des organisations? Et je parle davantage des investisseurs privés, donc des private equity, des organisations qui ont du capital à déployer, qui veulent investir dans des organisations. Donc ici, j'aimerais savoir un petit peu ce qui se déroule, ce que tu vois. Et également, qu'est-ce qui se déroule peut-être même dans les entreprises privées en général? Est-ce que les gens ont davantage peur? Est-ce qu'il y a une consolidation qui se déroule? Bref, si tu as une dynamique à nous expliquer, des choses que tu vois, je serais très très curieux d'en entendre un petit peu plus.
Ce que je vois de la part des investisseurs dans le secteur privé, je te dirais, ben écoute, mon premier commentaire qui me vient à l'esprit, c'est 2022 dans les marchés publics en bourse, ça a été une année difficile. Puis je me disais, écoute, on a vécu la baisse pour refléter la hausse de taux d'intérêt. Je dis 2023, ça va être l'année que le secteur privé va se faire réajuster. Parce que quand on regarde les multiples dans le secteur privé, de l'immobilier jusqu'à des entreprises, c'était vraiment des multiples qui étaient très élevés avec des financements qui étaient hyper bas avant qu'on subisse la hausse de taux d'intérêt. Puis comme certains attendent encore la récession, moi, j'entends encore une contraction des multiples. C'est jusqu'à présent, dans le secteur privé, c'est un environnement qui est un peu plus raisonnable, mais je veux dire, les multiples se sont pas nécessairement contractés autant que moi, je l'avais imaginé. On est dans un marché où il y a encore beaucoup de liquidité dans le système. Les vendeurs sont pas prêts à se départir, l'équité minoritaire ou majoritaire, là, à n'importe quel prix. Donc, il y a encore un support. Est-ce que ça va se maintenir? À voir. L'autre côté de la part des entreprises, je te dirais, c'est un peu particulier parce que en ce moment, je trouve qu'il y a quand même un pessimisme chez les gens en général. On est inquiet de plusieurs facteurs. Tu sais, on pourrait les regarder ensemble, mais il y a tellement d'incertitudes. Par contre, quand on sonde l'entrepreneur sur son entreprise, puis toi, tu te situes où? en général, le ton est quand même optimiste. Donc, c'est curieux de voir des gens qui sont pessimistes pour l'environnement, mais dans leur carré, sur leur X, eux autres sont quand même optimistes. Puis je trouve ça drôle, parce que je dis, si tout le monde s'en parlerait, ben, on verrait peut-être l'horizon d'une manière un peu plus optimiste. Mais je pense que au niveau là, du dynamisme auprès des propriétaires, on a beaucoup de familles en affaires là, dans notre clientèle. Puis je te dirais, les gens sont prudents, mais ils sont pas alarmistes. Ils sont plus en mode observation. Je te dirais, ils sont pas en mode proactivité d'investir massivement dans la croissance organique, là, définitivement. Mais de l'autre côté, je sens pas que les entrepreneurs sont si, dans la majorité des cas, là, qui sont si inquiets. C'est sûr que nos clients, c'est du monde qui ont des surplus de capitaux, qui font de l'épargne. Donc, souvent, c'est des gens qui ont déjà une bonne posture économique. Fait que c'est un peu le sentiment qu'on a. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que 2024 va nous réserver. Est-ce qu'on va avoir un peu un retour du balancier avec des évaluations plus raisonnables dans le secteur privé? Plus que le temps avance, plus que je suis incertain. Donc, ça va être... Ça reste à suivre.
Intéressant. Des choses à rajouter?
Ben, ce qui influe aussi là, en finance, c'est que là, on commence à voir les taux d'intérêt long terme commencer à se détendre là, depuis un mois. Donc, le financement 5 ans, 10 ans, c'est sûr que sa tendance va se maintenir. C'est sûr que ça va aider les entreprises lorsqu'ils vont avoir leur... c'est les prochaines années, là, on va vivre beaucoup de sociétés qui font face à du refinancement. Fait que c'est sûr que je pense ces entrepreneurs-là et leurs investisseurs, ben, si les taux se refroidissent, ce serait déraisonnable de s'attendre à un environnement taux comme on l'a connu en 2021, tout comme l'anomalie des années 80 où les taux étaient démesurément élevés. Là, on est dans un environnement où on était comme en 2004, 2005. Ben, je pense que beaucoup d'entreprises peuvent tirer leur épingle du jeu dans cet environnement-là, même si les taux auront progressé, mais ça reste quand même à surveiller.
Et quand tu sens que ça pourrait redescendre? Parce que là, ils ont augmenté quelque peu, là, soyons honnêtes, on l'a vu, les chômages ont augmenté au Québec, ça se contracte un petit peu plus, à quelle vitesse, difficile à dire, mais on sent une légère contraction. À quel moment tu sens que le gouvernement pourrait intervenir?
Pour que les banques centrales baissent le taux, là, j'ai hâte de voir là, comme là, on commence à voir... Tu sais, ça fait longtemps qu'on dit que les hausses de taux vont avoir un impact sur la consommation. Au Canada, on va être plus sensible qu'aux États-Unis parce qu'au Canada, on vit plus les hausses de taux. Les hypothèques sont à taux variable, sont renouvelables aux 5 ans. Aux États-Unis, les taux sont fixes pendant 30 ans puis en plus, sont déductibles d'impôts. Donc, ces gens-là vivent pas la même réalité que nous. Et là, on commence à voir au niveau de la vente au détail, etc. On commence vraiment à voir les choses se refroidir. Donc, c'est difficile de faire des projections parce que on est en terrain connu, on a jamais vécu ce qu'on vit actuellement. Mais ça se peut que les banques centrales soient... des fois, les gens disent, les analystes pensent qu'on va avoir 3 baisses de 0,25% au courant de 2024. Moi, je pense que c'est difficile d'anticiper ça parce que la psychologie humaine, ben, si les choses vont moins bien, ça peut arrêter rapidement. Puis on peut voir une banque centrale au Canada être beaucoup plus proactive en faisant des baisses de 50 points de base, quelques séquences pour être vraiment proactive pour pas qu'on ait une récession sévère. À date, je pense qu'on peut voir un ralentissement économique, on pourrait voir une récession avec un R minuscule, avec une contraction de pendant 6 mois de l'économie. Mais si la Banque centrale voit ça puis rapidement s'ajuste pour pas prendre un trop grand risque, ben je pense qu'on pourrait avoir un atterrissage en douceur. Mais si on regarde dans l'histoire, les moments que c'est arrivé, c'est plutôt rare. Donc, je pense qu'il faut vraiment être prudent, mais c'est pas parce qu'on a un recul économique. Si on a une Banque centrale proactive qui va rebaisser agressivement son taux, ben je pense qu'on peut se rajuster rapidement. Parce que faut pas oublier que derrière tout ça, c'est l'économie au Canada, c'est la consommation. 2/3 de l'économie. Puis tant qu'on a un emploi qui est relativement sain, comme on est actuellement, il faut pas oublier que les gens gagnent beaucoup plus qu'en 2019, ajusté à l'inflation en moyenne. Bien, ça va ramener une économie plus sobre, les hausses du taux d'intérêt, mais ça va quand même une économie qui va se soutenir.
Intéressant. Simon, c'est toujours plaisant de discuter avec toi. Si on veut en apprendre un peu plus, ton site internet, meilleur endroit pour te rejoindre, ou ta chaîne YouTube même.
Oui, exact. Grosplante.ca. Mais pour les gens qui veulent écouter notre commentaire, chaque dimanche, on a une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Donc, allez voir Grosplante ou tout simplement Simon Plante. Simon avec un C. C'est la réalité de mon prénom. Simon Plante avec un C sur YouTube. Puis, vous pouvez vous inscrire à notre chaîne pour entendre notre commentaire économique hebdomadaire.
Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Simon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours intéressant d'avoir un petit suivi économique de ce qui se déroule, surtout avec les bilans qui sortent au niveau du marché public. Donc, je te remercie. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.